Merci. Nous sommes en effet heureux de commencer cette année en nous rassemblant autour de notre Seigneur, autour de sa parole, pour l'écouter encore et encore, pour recevoir la vie en écoutant sa parole. Habituellement, le premier dimanche de l'année, souvent, la prédication est consacrée, porte sur la devise. Mais malheureusement, nous n'avons pas choisi à temps. Et du coup, la devise sera donc pour dimanche prochain, et le message aussi qui portera sur la devise sera donné dimanche prochain. Aujourd'hui, donc, je me suis posé la question, quel message apporter à l'Église pour ce premier culte de l'année? Quelle parole mettre devant nous pour commencer l'année? Comme vous le savez, j'ai commencé une série de prédications sur l'Épître de Jean, et en regardant le texte où je suis arrivé, je me suis dit, est-ce qu'il peut convenir ou faut-il chercher un autre texte, une autre parole du Seigneur? Et la bonne surprise, c'est qu'en lisant la suite, je retrouve une très belle promesse qui me semble intéressante de mettre devant nous en ce premier culte de l'année, qu'il convient de nous rappeler. Cette promesse se trouve donc dans la première épître de Jean, au chapitre 5, dans les versets 13 à 14, que je vous invite à lire à présent. Donc la première épître de Jean, au chapitre 5, nous lirons ensemble les versets 13 à 14 où il y a une belle promesse à placer devant nous, à nous rappeler pour ce début d'année et pourquoi pas pour toute l'année. 1 Jean 5. Je vous ai écrit tout cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui avez foi au nom du Fils de Dieu. Et voici l'assurance que nous avons devant lui, devant Dieu. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. En sachant qu'il nous écoute, quoi que nous lui demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne conduit pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu lui donnera la vie. C'est vraiment le péché commis, il ne conduit pas à la mort. Il existe un péché qui conduit à la mort, et ce n'est pas à propos de celui-là que je dis de prier. Toute iniquité est péché, mais tout péché ne conduit pas à la mort. Jusqu'ici, notre lecture. La promesse donc que je veux mettre devant nous ce matin est rapporté dans les versets 14 et 15. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Dieu nous écoute. Si nous demandons à Dieu quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et en sachant qu'il nous écoute, quoi que nous lui demandions, nous savons que nous le possédons déjà à présent. Voici l'assurance. L'assurance d'avoir une oreille attentive que Jean met devant nous. L'assurance d'avoir une oreille attentive de la part de Dieu, une oreille attentive à nos demandes. Le terme qui est employé pour évoquer l'assurance ici, au début de ce verset 14, évoque, à vrai dire, une confiance, une liberté de parole, ou encore une hardiesse que nous avons auprès de Dieu. En d'autres termes, nous avons d'une part une vraie liberté, une réelle confiance de nous approcher de Dieu, et d'autre part, nous avons l'assurance qu'il nous écoute, qu'il entend nos prières, même les soupirs inexprimables. Dès à présent, nous pouvons nous approcher de Dieu en toute liberté, sans avoir peur d'être consumés par sa justice ni par sa sainteté. En Christ, nous pouvons nous approcher librement devant lui, avec confiance. Avec confiance. Et nous pouvons aussi nous approcher de lui avec l'assurance qu'il écoute, qu'il entend et qu'il répond à nos prières et à nos supplications. Cela rejoint exactement ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux exprime si bien et si merveilleusement dans son Épître au chapitre 4 et par la suite au chapitre 10, où il dit « Approchons-nous de Dieu avec assurance. Approchons-nous donc du trône de la grâce de Dieu avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Et plus loin, au chapitre 10, il poursuit en disant, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, c'est-à-dire à la présence de Dieu, par le sang de Jésus. Nous avons donc dès à présent l'assurance de nous approcher de Dieu, de lui faire connaître nos besoins en toute occasion, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. En effet, l'assurance de nous approcher de Dieu, c'est l'assurance de nous approcher de Dieu qui nous est rappelée ici par Jean. Non seulement nous pouvons nous approcher de Dieu, mais nous savons aussi qu'il nous écoute, qu'il entend nos prières, la prière de ceux et celles qui mettent la foi au Fils unique de Dieu, comme le précise le verset 13 de notre texte. Jean nous rappelle, à nous qui mettons notre foi en Jésus-Christ, au nom du Fils de Dieu, verset 13, que tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accordera. Et ce n'est pas la première fois que Jean rappelle cette promesse dans cet épître. Il l'a déjà fait au chapitre 3, dans les versets 21 et 22, il dit, « Mais bien-aimés, nous nous adressons à Dieu avec assurance, et quoi que nous demandions, nous l'obtiendrons de lui. » Chapitre 3, versets 21 et 22. À vrai dire, Jean ne fait que rappeler la promesse que Jésus lui-même a faite à plusieurs reprises dans des circonstances différentes dans l'Évangile. Exaucer la prière faite en son nom. À 4 reprises dans l'Évangile de Jean, et plus précisément dans son dernier discours, le discours d'adieu, donc dans Jean 13 jusqu'à 16, Jésus promet à ses disciples à plusieurs reprises, à 4 reprises exactement, qu'il allait répondre favorablement à toutes les prières qui sont exprimées en son nom. Je lis au chapitre 14, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que mon Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Verset 13 et verset 14. Au chapitre 15, il poursuit en disant, « Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. » Au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père, au mon nom, il vous l'accordera. » Enfin, au chapitre 16, les versets 23 et 24, « en vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père, au mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé au mon nom, demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. » Dans tous ces passages, Jésus promet une réponse à toutes nos prières faites en son nom. Et pourtant, dans notre expérience chrétienne, dans notre vie chrétienne, de chrétien, nous constatons qu'il y a un certain nombre de prières, de requêtes qui ne sont pas exaucées. Et pourtant, elles sont faites en son nom. Comment comprendre donc ce décalage entre la promesse faite par Jésus à 4 reprises et rappelée par Jean dans son épître à 2 reprises dans notre texte, et comment comprendre ce décalage entre toutes ces promesses de Jésus et nos prières qui restent parfois non exaucées? C'est ici, me semble-t-il, qu'il faut souligner la condition qui accompagne toutes ces promesses d'exaucement de la prière. Dans notre texte, Jean dit clairement que seulement si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, le verset 14. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, si seulement nous demandons quelque chose selon sa volonté, que Dieu nous écoute et nous accorde ce que nous lui demandons. Dans les passages de Jean que j'ai lus, les paroles de Jésus, donc rapportées dans l'évangile de Jean que j'ai lu, dans toutes ces paroles qui portent la promesse de l'exaucement, il y a à chaque fois une condition qui est posée. Et toutes ces conditions, lorsqu'on les examine, on se rend compte que toutes ces conditions impliquent simplement une relation personnelle, une relation intime avec Dieu et avec Jésus. Cette relation avec Dieu nous permet de connaître la volonté de Dieu, de connaître ce que Dieu veut pour nous, de connaître le meilleur de ce que Dieu propose pour chacun de ses enfants, comme un père qui aime ses enfants. C'est-à-dire, c'est dans cette relation que nous découvrons le projet de Dieu pour nous. La connaissance de la volonté de Dieu nous conduit à prier selon sa volonté, à ne désirer rien d'autre que sa volonté et à ne choisir rien d'autre que sa volonté. En effet, nous ne pourrons que dire cette belle prière et avec conviction et force, que ta volonté soit faite comme le Seigneur nous l'a enseigné. Nous sommes donc invités à chercher la volonté de Dieu aussi bien pour notre vie d'une manière générale, et cette volonté-là est exprimée dans la parole de Dieu, dans ce que la Bible nous enseigne, que pour notre vie d'une manière spécifique, spéciale, et cela grâce à cette relation personnelle que nous avons avec Dieu, avec le Seigneur. La Bible nous apprend en effet le cadre général de la volonté de Dieu pour tous les êtres humains. Et la relation personnelle, intime avec le Seigneur, nous permet de découvrir sa volonté spécifique pour nous personnellement. Dire à Dieu que ta volonté soit faite n'est pas toujours chose facile à vivre et à assumer, car parfois la volonté de Dieu peut aussi nous faire passer aussi par des moments d'épreuve, par des moments de gémissement, par des moments de pleurs. À Gethsémané, Jésus a dû dire à son Père que ta volonté soit faite. Et qu'est-ce qu'il voyait devant lui? La croix. Jésus sait pertinemment que la volonté du Père passe aussi par la croix. Fort heureusement, la volonté de Dieu pour nous n'est pas toujours synonyme d'épreuve, n'est pas toujours synonyme de moments difficiles ou de la croix. Mais nous ne devons pas, me semble-t-il, exclure ces moments-là, nous ne devons pas exclure ces possibilités-là. La volonté de Dieu pour nous, elle est bonne, souvent, elle est faite de joie, elle est faite de bonheur. Dieu nous met en marche, car cette volonté nous place sur le chemin, allant vers le Seigneur en accomplissant sa volonté. Il veut le meilleur pour nous. Et là, une destinée glorieuse pour chacun d'entre nous qui se réalisera pleinement lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qui commence déjà et qui prend forme déjà maintenant dans les différentes choses que Dieu nous donne de vivre. Donc la volonté de Dieu pour nous est bonne et n'ayons pas peur de dire au Seigneur que ta volonté, rien que ta volonté pour moi, pour nous. Voilà pourquoi, me semble-t-il, nous devons chercher sa volonté. C'est le cœur, c'est là où réside notre bonheur. C'est le cœur de notre bonheur. Voilà pourquoi nous devons prier selon sa volonté. Prier selon sa volonté, c'est rechercher sa volonté, c'est l'accepter, c'est faire de sa volonté notre propre volonté, c'est nous soumettre à sa volonté lorsqu'elle demande des efforts ou lorsqu'elle est exigeante. Oui, par la prière, nous apprenons à soumettre notre volonté à celle du Seigneur. Par la prière, nous apprenons à faire la volonté de Dieu, notre propre volonté. Concrètement, dans la vie, nous apprenons à connaître la volonté de Dieu pour notre vie par les temps que nous passons à son écoute, par le temps que nous prenons à son écoute, aussi bien à l'écoute de sa parole que à l'écoute de son esprit. Prendre le temps pour nous placer devant le Seigneur est le secret. Il n'y a pas d'autre secret. Nous ne pouvons pas nous contenter, par exemple, des cultes de dimanche, ou encore d'une fois de temps en temps ouvrir sa Bible pour dire que je vais connaître la volonté de Dieu et par conséquent connaître le bonheur que Dieu veut pour moi. Mais non, connaître la volonté de Dieu, vivre donc dans son bonheur, implique prendre le temps dans sa présence, nous mettre à l'écoute de sa parole, nous mettre à l'écoute de sa voix. Prendre le temps pour lire sa parole, c'est le secret de connaître sa volonté générale, globale, pour tous les croyants, pour nous, comprendre que Dieu nous aime comme un père aime son enfant, un amour qui le pousse à nous faire tant de bien et de plusieurs manières. Prendre le temps dans le silence de notre cœur pour entendre la voix de son esprit est aussi le secret de connaître la volonté de Dieu spécifique pour nos projets de tous les jours, pour les décisions à prendre, et pas simplement les décisions importantes, même les décisions petites, simples de la vie, car il se trouve que parfois ce sont les petites décisions qui tracent des trajectoires importantes dans la vie des hommes. Prendre le temps, c'est le secret, ne placer devant le Seigneur, pour entendre, recevoir sa volonté, pour comprendre ce qu'il veut pour nous, pour découvrir sa bonne et sainte, juste volonté pour nous. Oui. Un exemple peut aider, c'est l'exemple de cet enfant avec son père, de sa relation avec son père. Si un enfant, dans sa relation avec son père, il prend le temps d'écouter son père, de passer de temps avec son père, il saura si son père veut faire un tel projet, il saura si son père veut faire telle chose ou telle chose. Mais si l'enfant ne fait que croiser son père à la maison de temps en temps, il ne saura d'ailleurs rien de son père et encore moins de ses projets. Ici, me semble-t-il, la même chose pour nous dans notre vie chrétienne. Si nous prenons de temps avec le Seigneur, si nous prenons de temps dans sa présence, nous connaîtrons d'abord notre Dieu, qui il est vraiment, et en plus de cela, nous connaîtrons ses projets, nous connaîtrons sa bonne volonté pour nous. La balle donc est dans notre camp. Si nous voulons l'exaucement de notre prière, nous devons savoir prier selon sa volonté. Si nous voulons connaître sa volonté, nous devons prendre le temps de l'apprendre et de la découvrir, c'est-à-dire d'écouter Dieu dans sa parole et par son esprit et bien d'autres moyens également. À nous donc de voir combien de temps allons-nous consacrer à Dieu dans notre journée, dans notre semaine, au cours de cette année, pour connaître sa volonté, pour connaître ce qu'il a prévu, ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Nous voulons voir nos prières exaucées. Nous voulons voir nos prières exaucées, qu'elles soient simplement au cœur de la volonté de Dieu pour nous. Nous voulons savoir quelle est la volonté de Dieu sur un point précis, sur un point ou l'autre, pour notre vie. Prenons le temps de l'écouter et de la recevoir. Invoque-moi, dit le Seigneur. Je te répondrai, je te révélerai de grandes choses. Il le dit par la bouche de Jérémie 33. Invoque-moi et je te répondrai et je te révélerai de grandes choses. Voilà la promesse que le Seigneur nous fait, nous offre, nous dit pour cette année et bien au-delà. Que cette année donc soit pour chacun d'entre nous riche, qu'elle soit bénie, riche et bénie dans l'écoute de sa voix. Savoir que Dieu entend nos prières, qu'il les exauce, ne peut que avoir des implications concrètes dans notre vie, et en particulier dans notre vie de prière. Nous allons prier parce que nous savons que Dieu nous écoute, que Dieu répond favorablement, exauce tout le temps lorsque notre prière est conforme à sa volonté. Nous ne prierons pas ou nous n'allons pas prier parce qu'il faut prier. Nous n'allons pas prier parce qu'il faut prier, il faut faire un certain nombre de prières par jour, comme c'est stipulé dans certaines religions. Non, nous allons prier parce que nous savons que le Seigneur nous entend, que le Seigneur exauce nos prières, toutes ces prières qui s'inscrivent dans sa volonté, au cœur de sa volonté. Savoir que Dieu nous entend, savoir que Dieu nous exauce, cela nous encourage non seulement à prier pour nous, pour notre vie, ce qui est tout à fait normal, mais aussi à prier pour ceux qui nous entourent, aussi bien les frères et sœurs dans la foi que ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, les voisins, les collègues, les proches, les connaissances, tous ces gens qui nous entourent et qui ne connaissent pas encore ce merveilleux Seigneur et Sauveur. Et comme nous savons que Dieu nous écoute et nous exauce, nous devons prier pour eux. Nous devons les présenter à notre Seigneur aussi bien, aussi régulièrement que possible, selon, bien sûr, la direction aussi du Seigneur. Jean nous donne un exemple très concret qui doit susciter notre prière lorsque nous savons et nous sommes convaincus que vraiment Dieu nous écoute et exauce nos prières. Il nous dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas, qui ne conduit pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. être conscient du fait que Dieu répond à nos prières, nous entend et exauce nos prières, ne peut pas simplement nous conduire à prier pour nous-mêmes, mais nous introduit à prier pour des frères et sœurs qui nous entourent. Voir une situation difficile que traverse un frère ne peut que susciter notre prière. Une situation difficile, qu'elle soit d'ailleurs d'ordre matériel ou d'ordre spirituel. Ici, il est question d'ordre spirituel, mais au chapitre 3, les versets 17 et 18, il était question d'un frère qui est dans le besoin matériellement. Et ces situations ne peuvent que susciter notre prière. Prier parce que nous savons que Dieu intervient et que Dieu agit. Et le cas que Jean évoque ici est celui de ce frère, d'un frère qui pêche, c'est-à-dire de frères qui se retrouvent dans une misère spirituelle. En présence d'une telle situation, le chrétien n'est pas appelé d'abord à disserter sur la situation du frère. Il n'est pas appelé d'abord à juger la situation. Il est d'abord appelé à prier parce qu'il sait que le Seigneur l'entend et que le Seigneur l'exauce. D'ailleurs, l'expression « qu'il prie » dit la réaction normale d'un chrétien face à une situation un peu difficile que traverse un frère ou une sœur. En d'autres termes, la réaction normale face à une situation difficile que traverse un frère ou une sœur lorsqu'il se bat avec le péché ou lorsqu'il est dans la désobéissance, c'est simplement la prière avant toute autre chose. Bien sûr, lorsque c'est nécessaire, il faut aller plus loin. Mais souvent, hélas, nous forgeons d'abord nos jugements. Parfois, nous formulons même des condamnations avant même d'avoir pris le temps de prier le Dieu de grâce et de miséricorde manifesté en Jésus-Christ pour intervenir dans une telle situation. Or, nous savons que Dieu nous entend et nous exauce. Et par conséquent, invoquons sa grâce avant toute chose face à des situations de misère. Prions d'abord le Seigneur, demandons-lui d'abord d'intervenir. Car notre Dieu est bon, il est bon pour nous, il est bon pour le frère pécheur, pour la sœur qui pêche. Oui, voilà pourquoi il donne la vie en réponse aux prières élevées en faveur de ce frère pécheur. Dieu aime donner la vie. Et la vie qu'il donne, il ne le fait pas lorsqu'il la donne, il ne le fait pas avec mesure, il le donne en abondance, il donne la vie et la vie en abondance. Et c'est ce que Jean a rappelé dans les versets qui précèdent justement notre texte. Dieu a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Qui a le Fils a la vie, qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, les versets 11 et 12. Dieu se réjouit d'offrir la vie, la vraie, celle que rien n'est personne ne peut nous enlever. À nous maintenant d'élever nos voix, justement dans la prière, pour le frère, pour la sœur, qui s'écarte de cette voie, de cette vie, qui est pour qu'il ne s'éloigne pas définitivement, mais au contraire, qu'il revienne à la source de la vie, qui n'est autre que notre Seigneur lui-même. Priez donc avant toute chose pour que le Seigneur intervienne en faveur de notre frère, de notre sœur, de la même manière que les autres prieront en notre faveur lorsque il nous arrivera aussi à nous, peut-être, de s'écarter de la vie, de la source de la vie que Dieu nous offre. Il y a néanmoins une précision que Jean apporte ici et qu'il faut souligner. Jean met une distinction entre le péché qui ne conduit pas à la mort et le péché qui conduit à la mort. Si le péché ne mène pas à la mort, Jean nous encourage à prier. Mais s'il s'agit du péché qui mène à la mort, Jean ne demande de ne pas prier pour cela. De ne pas prier pour cela. À la fin du verset 16, il écrit « Il existe un péché qui conduit à la mort, ce n'est pas à propos de celui-là que je dis de prier. » Quel est ce péché qui mène à la mort ? Les premiers lecteurs de Jean savaient pertinemment de quoi il s'agit. Les premiers lecteurs destinataires de l'apôtre Jean savaient de quoi il s'agit, au point que Jean n'a pas éprouvé la nécessité d'expliciter le contenu ou c'est quoi, de quel péché s'agit-il, de donner plus de précision concernant ce péché qui mène à la mort. Mais depuis les pères de l'Église, plusieurs définitions, plusieurs interprétations sont avancées pour définir le péché qui mène à la mort. Il faut d'abord préciser que, à vrai dire, tous les péchés mènent à la mort spirituelle. S'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas retour vers le Seigneur, c'est la mort. C'est ce que la Bible enseigne, car le péché, dit la Bible, c'est le salaire. La mort, c'est le salaire, c'est le châtiment du péché. Mais le péché que Jean souligne ici n'est pas le péché d'une manière générale. C'est un péché bien spécifique. De quoi s'agit-il? Je vais vous donner trois explications qui sont données au fil de l'histoire, mais je pense qu'elles sont les principales. La première consiste à dire que ce péché est l'un de ceux qui sont sanctionnés par la loi de Moïse, par la peine capitale, comme par exemple l'adultère ou le meurtre, dire que ces péchés-là ne peuvent être pardonnés. Il n'y a aucun sacrifice prévu dans la loi pour le pardon, pour avoir le pardon pour un meurtrier ou un adultère. La sanction, c'est la peine capitale, c'est la mort. Et donc, ces péchés-là sont commis, comme dit le psaume 19, sont commis à main haute, une manière de dire, ils sont commis d'une manière volontaire, et donc, les personnes qui les commettent sont pleinement responsables devant le Seigneur, ils doivent rendre des comptes devant le Seigneur. Dieu ne traite en être responsable. Cela conduit certains pères de l'Église à faire une distinction donc entre les péchés graves impardonnables et les péchés mineurs pardonnables. C'est le cas par exemple de Clément d'Alexandrie, d'Origène et encore de Tertullien et ainsi de suite. Mais le Nouveau Testament ne classe pas les péchés dans deux catégories, n'agit pas de cette manière. Il serait donc difficile de voir derrière le péché qui mène à la mort une catégorie, une série de péchés qui sont graves ou qui sont dramatiques et qui seraient visés ici dans ce cas précis. D'autant plus que nous avons un exemple dans le Nouveau Testament d'un meurtrier qui a été pardonné par le Seigneur, un certain Saul de Tarse, qui a participé à l'assassinat d'Étienne, et les actes des apôtres le disent lui-même, il le dit quand il rendra témoignage, et le Seigneur lui a pardonné. Le Seigneur lui a pardonné, plus encore, il a fait de lui un instrument puissant entre les mains, ses mains. C'est l'apôtre, il a fait de lui l'apôtre des païens, l'apôtre Paul. Donc le péché qui mène à la mort ne peut pas être à mon sens, ces péchés ne peuvent pas désigner une liste de péchés graves qui seraient impardonnables. Tous les péchés sont pardonné par le Seigneur. Et d'ailleurs, Jean commence son épître en disant « Si nous reconnaissons notre péché et nous le confessons devant Dieu, il est juste et fidèle pour nous le pardonner. » Et il est question de tous les péchés, pourvu que nous le reconnaissions et nous le confessions devant le Seigneur. Une deuxième explication est avancée par des gens beaucoup plus modernes, des commentateurs beaucoup plus modernes, et elle consiste à dire en fait le péché qui mène à la mort n'est autre que l'apostasie, c'est-à-dire celui qui renie le Christ et qui abandonne la foi. Et pour soutenir un petit peu cet enseignement, cette thèse, ils évoquent tous ces passages de l'Épître aux Hébreux. Vous savez qu'il y a deux ou trois passages qui évoquent des gens, des chrétiens qui ont goûté à la bonté du Seigneur, mais qui se sont détournés de Dieu. Ce sont des passages très difficiles à comprendre. Voilà. Donc ils s'appuient sur ces passages-là. Mais cette manière de comprendre les choses, me semble-t-il, pose aussi la question de la vraie conversion, c'est-à-dire la conversion selon le Nouveau Testament. Car le Nouveau Testament ne présente que conversion est une réalité durable et définitive. Et si elle est durable et définitive, pour la simple raison, c'est qu'elle n'est pas le fruit de notre propre travail, de notre propre religiosité ou de notre propre cheminement, mais elle est le fruit de l'œuvre de Jésus et de l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de Jésus à la croix, c'est la base de notre conversion, et l'œuvre de l'Esprit qui nous applique l'œuvre de Jésus à la croix dans notre vie. Donc, la conversion, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et donc, c'est très difficile de dire que l'œuvre de Jésus et de l'Esprit dans notre vie pourrait un jour être donc remise en question. Un vrai chrétien, me semble-t-il, ne peut pas se détourner, ne peut pas renoncer fondamentalement au Christ. Il peut passer par des moments difficiles, mais après revenir. Mais si quelqu'un jusqu'au bout persiste à renoncer Christ après avoir été chrétien pour un temps, il me semble dans ce cas-là, il faudrait se poser la question sur sa conversion initiale. Est-ce qu'il s'agit de la conversion comme le Nouveau Testament l'entend? car le Nouveau Testament entend que notre conversion ne tourne vers le Seigneur et l'œuvre, le fruit de ce que Jésus a fait à la croix et de ce que le Saint-Esprit fait dans le cœur du croyant. Voilà donc une troisième explication qui me semble plus cohérente avec l'ensemble des données bibliques et qui consiste à voir derrière le péché qui mène à la mort, tout simplement le péché ou le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit est le refus volontaire de croire dans les œuvres de Jésus. C'est ça ce que Jésus dit aux pharisiens, aux scribes, qui l'accusaient de faire des miracles avec la puissance du diable, de Belzéboul. Jésus dit, je fais cela par le doigt de Dieu, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu. Il parle, tout péché contre le Père et le Fils sera pardonné, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. De quoi s'agit-il donc? Il s'agit simplement de refuser l'évidence, de croire à la démonstration concrète et admirable que le Saint-Esprit essaye de faire dans notre monde, au temps de Jésus, mais aussi jusqu'à maintenant, jusqu'au retour du Seigneur. Il essaye de démontrer que Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur. Refuser cette démonstration que Jésus est Seigneur et Sauveur, qui est l'œuvre de l'Esprit, refuser cette œuvre, c'est se rendre simplement coupable d'un péché éternel, dit Jésus dans Marc 3, au verset 29. Et c'est ça ce qu'il dit aux religieux de l'époque. Dans notre texte, Jean vise clairement, certainement, les faux enseignants qu'il combat tout au long de cet épître. Ces faux enseignants, qu'est-ce qu'ils rejettent? Ces faux enseignants rejettent, entre autres, le fait que Jésus-Christ est venu en chair. Et c'est quoi rejeter Jésus-Christ est venu en chair? C'est refuser de croire à l'incarnation que Jésus incarné est le même qui a été à la croix, qui a souffert et a ressuscité. Donc, c'est rejeter que Jésus est Seigneur et Sauveur en même temps, en la personne de Christ. Il rejette simplement le fondement même de la foi chrétienne. Et c'est ces faux enseignants donc, qui rejettent l'œuvre et l'identité de Jésus-Christ telles qu'elles sont révélées dans l'Évangile. C'est eux donc que Jean vise ici de la même manière que Jésus a visé les scribes et les docteurs de la loi qui l'accusaient d'avoir de faire ce qu'il fait par la force de Belzébuth, du diable. Rejeter consciemment, volontairement Jésus-Christ, c'est simplement choisir les ténèbres à la lumière de Dieu. Rejeter Jésus, c'est rejeter le moyen, le seul que Dieu a prévu pour le salut des êtres humains. Rejeter Jésus, c'est en effet commettre le péché qui conduit à la mort et à la mort pour toujours, à moins de revenir. Cela souligne la responsabilité que chacun a face au choix qu'il doit faire au sujet de ce Jésus. Et si vous ne voulez pas la mort, c'est simple, choisissez le Christ, choisissez le Sauveur, Jésus-Christ, tel qu'il est révélé dans l'Évangile. C'est un choix que chacun doit faire pour sa propre vie. C'est un choix qui ne peut être reporté toujours et toujours pour après et pour après. C'est un choix qui doit se faire dès que possible, mais bien entendu, en connaissance de cause, et non pas sous une influence ou une manipulation quelconque. Ceux qui n'ont pas encore fait justement ce choix, me semble-t-il, doivent réfléchir sérieusement aux conséquences que ce non-choix, ou le choix de ne pas faire le choix, peut engendrer. Quant à nous, chrétiens, qui avons fait ce choix, nous devons entendre l'appel à la prière de Jean, que Jean nous adresse, y compris ici. Cet appel est plus masqué que l'appel qu'il nous a adressé en faveur du frère pécheur. À vrai dire, Jean n'adresse pas un appel explicite en faveur des personnes qui rejettent consciemment et volontairement le Christ, mais il ne dit pas non plus qu'il ne faut pas prier pour ces personnes-là. Beaucoup de ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ autour de nous le font souvent par ignorance ou par un manque de connaissance. Ils pensent qu'ils allaient perdre quelque chose ou ils allaient s'encombrer en croyant en Jésus. Ils ne savent pas que s'ils ont tout à gagner, et au contraire, ils vont être très très allégés en venant à Christ. Ils n'ont pas s'encombré de Jésus et encore moins de perdre quoi que ce soit, mais ils auront tout à gagner, à commencer par la vie, la vraie. Beaucoup donc de ceux qui refusent autour de nous de croire en Jésus le font par manque de connaissance et pas forcément un rejet volontaire. Voilà pourquoi, il me semble, pour nous, nous devons entendre cet appel implicite à prier aussi pour ceux qui nous entourent, à continuer à demander à Dieu de sauver, de faire grâce comme les autres ont prié pour nous. Nous sommes le fruit des prières des autres. Nous sommes invités maintenant à prier nous aussi pour que d'autres puissent être sauvés, que Dieu continue à faire grâce pour nos contemporains. Car nous ne devons pas oublier que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit à Timothée. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La condition pour que le Seigneur exauce notre prière, comme nous l'avons souligné tout au début, pour que le Seigneur exauce notre prière, c'est le fait d'avoir une prière conforme à sa volonté. Or, dans ce passage, il nous est dit très clairement que la volonté du Seigneur est de sauver et qu'un grand nombre d'hommes et de femmes parviennent à son salut et parviennent à sa connaissance. Voilà donc pourquoi, très chers frères et sœurs, nous avons un privilège immense d'avoir un libre accès auprès de Dieu, un privilège immense de pouvoir prier parce que nous sommes entendus par Dieu lui-même, bien au-delà d'un ministre et encore, ou encore d'un président ou d'un chef d'État. Nous sommes entendus par le Créateur, le Seigneur des Seigneurs. Nous avons un libre accès auprès de lui. Nous pouvons faire monter vers lui nos prières. Nous pouvons le faire en toute liberté. Oui, nous avons une belle promesse pour chaque jour, pour l'année, mais j'espère pour bien au-delà. Dieu nous écoute et Dieu exauce nos prières lorsqu'elles sont faites selon sa volonté. Je veux nous encourager au cours de cette année à ne pas oublier de faire connaître notre merveilleux Seigneur et Sauveur, à lui faire connaître tous nos besoins à nous, car lui, il pourvoira à tous nos besoins selon la richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Gardons donc cette ferme assurance que le Seigneur répond, pourvoit à nos besoins, répond à nos prières à chaque fois qu'elles s'inscrivent au cœur de sa volonté pour nous, la meilleure chose qui puisse nous arriver. N'oublions pas aussi de prier pour ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, car Dieu veut aussi les sauver, comme nous venons de le lire. Le Seigneur, il est l'auteur de la terre, des cieux, de la mer, de tout ce qui s'y trouve. Il est l'éternel gardien de la vérité. Il fait droit aux opprimés, donne le pain, il donne du pain aux affamés. Le Seigneur délie les prisonniers. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse ceux qui fléchissent. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les immigrés. Il soutient l'orphelin, la veuve, mais il déroute les pas des méchants. Le Seigneur régnera pour toujours. Et les nôtres d'âge en âge. Amen.